Est-ce que j'ai entendu fait qu'il se multiplie? C'est ça? Miguel, Miguel, faut t'enseigner ta famille. C'est super cute. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, avec nous. On s'en va dans 1 Jean. 1 Jean ce matin. Je m'appelle Yannick Étier, si vous ne me connaissez pas. Je suis un des pasteurs sur l'équipe ici. C'est moi qui vais apporter l'exposé biblique ce matin. Alors, dans 1 Jean, et on vous encourage vraiment à lire le texte biblique à l'intérieur du bulletin que vous avez reçu ce matin. Vous avez un plan de lecture pour nous accompagner, lire le passage. On est dans 1 Jean, on n'est pas dans Jean. Cette semaine, mon épouse prenait du temps avec quelqu'un qui est en train de découvrir vraiment les Écritures, puis était assidûment en train de faire ses devoirs dans Jean 1. Mais on est dans 1 Jean, même si c'est le même auteur. Et donc, on vous encourage à prendre le temps vraiment de les lire d'avance. Jusqu'à présent, Jean nous a démontré, nous a exposé 4 vérités fondamentales concernant le christianisme. Premièrement, Jésus est venu. Jésus est le Fils de Dieu, il s'est incarné. Il est venu vivre parmi les hommes physiquement, il s'est incarné. Deuxièmement, Dieu est lumière et nous, on est pécheurs. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas là, si on veut s'approcher de Dieu. Troisièmement, à cause de ce que Jésus-Christ a fait en mourant à la croix, c'est possible pour nous vraiment d'être pardonnés et d'apprendre à marcher dans la lumière. Et puis enfin, quatrièmement, si on a vu ça la semaine dernière, on peut avoir la certitude, non pas seulement que Jésus est venu, qu'il a vécu, que nos péchés peuvent être pardonnés, mais on peut avoir vraiment la certitude qu'on est en communion avec Dieu, qu'on connaît vraiment Dieu et qu'il nous connaît. Que ce n'est pas juste de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on espère en croisant les doigts, mais il y a quelque chose de plus fondamental, de plus certain. Et ce matin, ce que Jean va faire, Jean est vraiment un berger. Ce matin, il veut nous encourager à persévérer dans la foi. Dans le fond, le message que Jean a pour nous ce matin, c'est si vous avez connu Jésus, si vraiment vous l'avez connu, vous êtes sauvés. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est déjà acquis, ça. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Voyez-vous, déjà à l'époque de Jean, il y a des personnes qui avaient cru en Jésus, qui avaient évolué dans l'Église pendant un certain temps, puis qui, après ça, s'étaient détachés de l'Église chrétienne parce qu'ils prétendaient avoir reçu une nouvelle révélation. On va en parler un petit peu tout à l'heure, mais une nouvelle révélation, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Puis ces gens-là avaient quitté l'Église. Et tranquillement, ils revenaient vers les chrétiens, puis ils disaient, viens avec nous, on va aller fonder une autre église, on va aller partir à une autre église. On a une autre révélation. Puis là, ils questionnaient les gens en disant, OK, dis-moi, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que tu connais sur Dieu? Puis, ah, t'as pas cette révélation-là. En plus, tu as juste ce que les apôtres ont donné. Attends un peu, il te manque quelque chose. Faut que je t'amène dans cette nouvelle connaissance-là. Et donc, ils veulent les entraîner loin de la foi. Les gens, comme un bon père, est en train de dire, non, non, non. Si vous avez connu Jésus-Christ, vous avez tout reçu. Si vous le savez dans vos cœurs que vous l'avez connu, restez là. Depuis le début de l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, il y a un grand nombre de sectes qui ont été formées à partir du christianisme. Un grand nombre à travers l'histoire de gens qui ont évolué au milieu des chrétiens puis qui éventuellement se sont détachés avec une nouvelle révélation, peut-être celle que vous connaissez le plus, c'est les témoins de Jéhovah. Alors, les témoins de Jéhovah, c'est énorme dans le monde, d'accord? Mais fondamentalement, ça vient du christianisme. Puis à un certain moment donné, il y a des gens qui étaient dans l'Église qui se sont détachés puis qui ont prétendu et prétendent encore aujourd'hui recevoir une nouvelle révélation supplémentaire qui s'ajoute quelque chose de plus. Et on pourrait faire le tour de beaucoup de sectes, même des grandes religions qui sont en réalité on pourrait dire des sectes chrétiennes qui se sont détachées du christianisme. Et Jean, comme un bon berger ici, est simplement en train de nous dire, si tu as Jésus-Christ, sois en paix. Sois en paix. Demeure dans la foi que tu as reçue, qui t'a été transmise par les Saintes Écritures, par les apôtres. On va prier ensemble. Père éternel, tu nous as tout donné en nous donnant ton Fils. La semaine dernière, on se rappelait les paroles de Jésus qui dit... Celui qui m'a connu a connu le Père. Seigneur, tu nous as tout donné en nous donnant le Fils. Et à chacun d'entre nous, à tous ceux ici qui vraiment ont connu Jésus-Christ, nous avons déjà tout en lui, Seigneur. Je te prie, Père, ce matin, de venir affermir notre foi, afin qu'avec une conviction renouvelée, on demeure en Jésus-Christ. On demeure dans cette foi qui nous a été transmise par les Saintes Écritures, par les apôtres, Seigneur. Père, tu nous as donné en Jésus-Christ de comprendre qui est Dieu, de comprendre le monde qui nous entoure, de comprendre et de connaître aussi la vie éternelle, Seigneur. Viens affermir notre foi. Et je te prie pour les personnes ici, même s'il y en a une seule, Seigneur, qui ne peut pas dire avec une absolue certitude qu'elle connaît Jésus-Christ, viens, Seigneur, la rencontrer ce matin. Et viens chacun d'entre nous, Seigneur, nous rencontrer à travers tes saintes Écritures ce matin. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Alors, on va écouter Camille nous lire la parole de Dieu.
Le passage de ce matin est tiré de 1 Jean, au chapitre 2, le verset 12 à 27. 1 Jean, chapitre 2, les versets 12 à 27. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés.
Merci, Camille. Un passage comme celui-là peut avoir de l'air détaché de notre époque. Ça peut avoir de l'air très loin, puis on va parler un petit peu ce matin de philosophie, mais aussi de religions qui peuvent être très, très loin. Mais en même temps, plus ça change, plus c'est pareil. On vit à une époque en Occident particulière parce que les gens cherchent à se construire eux-mêmes leurs croyances à travers ce qu'ils vont trouver comme révélation, pseudo-révélation à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a une revue que j'ai trouvée sur Internet qui s'appelle « Zen Santé ». Santé zen. Puis, on va garder cette image-là juste un instant. On vit à une époque où les gens cherchent ailleurs quelque chose qui va venir répondre à un désir spirituel, un besoin spirituel. Et puis, toute la philosophie, c'est une religion, mais c'est une philosophie zen et super attirante parce que c'est beaucoup de méditation. Tu vas chercher à l'intérieur de toi quelque chose qui se trouverait là, qui viendrait t'unir avec toute l'humanité. dans ce silence-là intérieur. Tu vas juste t'ouvrir à ce silence-là. Puis il y a quelque chose qui pourrait se passer qui va te connecter, dans le fond, avec toute l'humanité. Ce qui est un peu drôle ou un peu triste dans tout ça, c'est qu'en même temps, on s'en sort pas. On sort pas de nos maux sociaux, nos péchés occidentaux. Fait qu'on prend quelque chose comme ça, toute cette philosophie-là zen qui va vers un détachement des biens matériels, un détachement de la terre. Hein. C'est une vision très dualiste du monde. On doit se détacher de la matière, même de nos corps, pour rentrer en communion avec quelque chose qui est spirituel, qui est beaucoup plus grand. Puis ça donne quelque chose comme ça où tu vois bien que cette dame-là met beaucoup d'énergie à s'occuper de son corps, puis de sa santé, puis de son look, puis de son apparence. Mais c'est zen santé. T'sais, on n'est pas tout à fait dans le détachement. On réussit comme à faire des amalgames où on met ensemble des choses qui... Je suis pas sûr que ça va vraiment ensemble, toutes ces idées-là. J'ai deux autres images aussi où on voit vraiment toute cette idée-là du culte du corps qui est super fort. Si on est zen, on est en forme, je suis connecté sur mon moi intérieur, puis en même temps, je suis très, très, très à l'écoute de ce que l'extérieur est en train de me dire. C'est quoi le regard qu'on dépose sur moi? Puis là, on va te promettre la jeunesse éternelle. J'ai un monsieur qui a fait pas mal les médias dans les dernières années. Écoutez, quel homme voudrait pas avoir ce corps-là à cet âge-là, n'est-ce pas? Et tout ça se fait dans une approche très, très zen aussi. Donc, il y a vraiment comme deux éléments. Il y a ma religion en moi que je me construis en écoutant une révélation que je reçois en moi-même, qui est censée comme m'amener ailleurs spirituellement, mais en même temps bien ancrée dans une vision très, très matérialiste, comme si la vie s'arrêtait ici sur Terre et la seule chose qui compte, c'est ce qui se passe avec nos corps, nos biens matériels sur la Terre. Il y a toute une espèce de mélange. Puis là, donc là, on se lance dans un culte du corps qui est super important. Le corps est super important, tout ça. Mais en même temps, ce que tu fais avec ton corps, c'est complètement détaché de toute question morale. Alors là, si on parle de la sexualité, on est ailleurs complètement. Là, la sexualité, c'est juste biologique. Il n'y a plus rien de moral lié à la sexualité. Donc, mon corps est super important, mon corps est sacré. Il faut que j'en prenne soin. Mon corps. Mais ma sexualité, il n'y a rien de sacré là-dedans. C'est juste biologique. Finalement, tu peux coucher par-ci, par-là. Il n'y a rien, il n'y a pas d'âme. Il n'y a rien de sacré dans ça. Il n'y a plus de moralité dans ça. Finalement, plus ça change, plus c'est pareil. À l'époque de Jean, il y avait un mouvement qui commençait à naître, d'accord, qui va vraiment émerger au 2e siècle, puis qui va continuer même jusqu'au 9e siècle, qu'on va appeler le gnosticisme, d'accord? Je vous invite à prendre le temps juste de faire des petites recherches sur Internet, aller lire un article. J'ai pris le temps d'aller voir ce qu'il y avait sur Wiki pour gnosticisme. Puis un de ceux qui va développer le plus cette pensée-là, qui en réalité va être chassé de l'Église comme hérétique, c'est Marcion. Alors, vous pouvez aller lire aussi l'article. C'est un peu biaisé. On essaie un peu de dire que Marcion, il y avait peut-être quelque chose finalement que les apôtres ne voulaient pas qu'on sache. T'sais. C'est un peu dans la théorie de la conspiration au Da Vinci Code. Là, mais il y a quand même beaucoup d'informations dedans. Et vous pouvez aller comprendre un peu mieux tout ça. Je n'aurai pas le temps d'expliquer tout ce que c'est le gnosticisme dans sa philosophie, dans ses origines, dans sa mythique aussi. Alors, toute la mythologie qui est autour de ça. Prenez le temps d'aller lire les articles si vous êtes curieux. Ça va vous aider à comprendre des choses. Puis après, vous allez lire un Jean avec un autre regard. Mais je vais quand même juste introduire, parce qu'à l'époque de Jean, ce que les historiens comprennent, c'est que le gnosticisme est en formation. On va appeler ça un proto-gnosticisme, d'accord? En gros, qu'est-ce qu'il y avait dans cette idée-là? Bien, il y avait cette notion que malgré tout ce que Jésus avait pu apporter, malgré ce que l'Ancien Testament nous avait donné, ce que les apôtres avaient donné, il manquait encore une connaissance. Il manquait une connaissance qui était profondément spirituelle. La semaine dernière, j'ai mentionné les cultes ou les religions à mystère, où il y avait des rites initiatiques. Le gnosticisme va sortir de ça, en quelque sorte. Et donc, il y a des gens qui étaient les plus spirituels, c'est comme si l'humanité était divisée en trois classes, puis il y avait ceux qui étaient vraiment des spirituels, eux recevaient naturellement cette révélation-là, une révélation, une gnose, une connaissance qui n'était pas vraiment transmissible de manière intelligible. On ne pouvait pas écrire ça dans des livres. Tu recevais cette connaissance-là et puis tu partais avec ça. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, cette idée que je me construis ma religion, je me construis ma foi, je vais trouver à l'intérieur de moi une révélation quelconque qui va donner un sens à l'univers, à ma vie, tout ça. Voyez-vous, ce n'est pas si détaché que ça. Et donc, les gnostiques croyaient ça, croyaient qu'une autre partie de la population pouvait recevoir cette connaissance-là par instruction, pouvait éventuellement les entraîner là-dedans. Ce n'étaient pas des vrais spirituels, mais on pouvait les instruire là-dedans. Puis il y avait ceux qui étaient bêtement animaux. C'était seulement de la matière. Alors, dans la vision gnostique du monde, il y a vraiment une dualité. Il y a tout ce qui est spirituel, ce qui est bon, ce qui est merveilleux, et il y a tout ce qui est matière, ce qui est matériel, et qui fondamentalement est mauvais. D'accord? Alors là, les gnostiques se campaient dans deux camps. Si la matière est mauvaise, il y a ceux qui disent qu'il faut être des ascètes, il faut être très rigoureux, il faut avoir plein de règles pour s'assurer de jamais laisser cours aux désirs de notre chair, de notre corps, il faut vraiment s'en détacher. Puis il y avait les autres qui étaient complètement à l'autre bout et qui disaient « Non, en fin de compte, tout ce qui compte, c'est le spirituel. Alors la chair, tout ça, ça va mourir. » Fait que tu peux faire absolument ce que tu veux avec ton corps, c'est sans incidence, tout ce qui compte, c'est ce qui se passe avec ton âme. Puis eux autres pouvaient littéralement se laisser aller à la débauche à l'infini. Ces idées-là commençaient à émerger à l'époque où Jean va écrire et il veut prendre soin des gens, des personnes qui sont dans l'Église, qui ont commencé à être entraînées vers ces groupes-là qui cherchent à quitter, à se retirer littéralement de l'Église chrétienne. Et Jean veut prendre soin d'eux en leur disant « Vous avez tout reçu. Vous avez reçu l'Évangile, vous avez connu Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que vous voudriez une nouvelle révélation? En recevant Jésus-Christ, vous avez compris le monde et les principes du monde. Vous avez connu le Père, vous avez connu la vie éternelle. » Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. Par la foi en Jésus-Christ, tu as reçu la connaissance de Dieu, la connaissance du monde qui passe et la vie éternelle. Et l'encouragement de Jean, c'est « reste là, demeure là ». Le passage que Camille nous a lu se comprend mieux si on le voit en trois sections, d'accord? Dans les trois premiers versets, ce que Jean fait, c'est qu'il veut encourager. Si vous regardez les versets 12 à 14, Jean prend soin d'encourager en rappelant aux chrétiens quelle est leur identité. Puis il veut que les chrétiens apprennent à se reposer là. Gardez ça à l'esprit parce qu'à la fin de l'exposé, vous devez revenir là pour comprendre le passage. Une fois qu'il a fait ça, il va leur adresser deux mises en garde. Une mise en garde qui est plus du domaine moral. Parce que certains commencent à dire, la moralité, la matière, ton corps, on s'en fout, tu fais ce que tu veux avec ça. Non, Jean, il a dit, non, la matière, on ne s'en fout pas, le Fils de Dieu s'est incarné, il est venu sur la terre, Dieu est le Créateur de nos âmes et de nos corps. C'est important ce que je fais avec mon corps. Donc, une qui est plus sur le plan moral, puis la deuxième mise en garde qui est plus longue, c'est sur le plan théologique ou doctrinal, où il ne veut pas qu'on s'égare en commençant à croire dans un autre Christ, dans un autre Sauveur que celui qui nous a été révélé par les apôtres. Alors, commençons par l'encouragement, parce que nous, on a besoin de ça. On a besoin de ça pour recevoir les mises en garde après, mais on a besoin d'apprendre aussi à prendre soin des gens autour de nous. Lorsqu'on regarde les gens autour de nous, puis on s'inquiète que ce soit des frères et sœurs dans la foi, que ce soit nos enfants, que ce soit des amis, on les regarde aller, puis lorsqu'on s'inquiète, notre premier réflexe, c'est d'arriver avec les mises en garde. C'est d'arriver avec « attention, t'es en train de glisser, t'es en train de déraper, tu pourrais perdre la foi, qu'est-ce qui va se passer avec toi? » Hein, c'est l'inquiétude, mais c'est poussé par l'amour. On veut prendre soin. Mais écoutez la sagesse de Jean ici. Jean sait qu'il est en train d'écrire à des gens qui ont cru en Jésus-Christ. Il veut premièrement leur rappeler leur identité. Il y a toutes sortes d'hypothèses sur les termes qu'il utilise. Jean va parler des petits-enfants, il va parler des pères, il va parler des jeunes gens. Est-ce que Jean est en train de parler littéralement des gens qui sont jeunes en âge, qui sont un peu plus vieux, puis qui sont pas mal plus vieux? Ça serait surprenant parce que tout le long, il parle à ses petits-enfants. Il va faire exactement la même chose lorsqu'on arrive au verset 18, « petits-enfants ». Donc, il est en train de parler à tous les chrétiens lorsqu'il les appelle ses petits-enfants. Pour autant que je peux comprendre, ce que Jean est en train de faire ici, c'est qu'il englobe tous les chrétiens. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont des enfants de Dieu. Et parmi les chrétiens, il veut particulièrement encourager deux groupes, les jeunes gens, les jeunes femmes, les jeunes hommes dans la foi. Et puis les pères, les mères dans la foi qui marchent depuis longtemps. Parce qu'il y a des saisons dans la vie. Il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être repris, il y a des moments où on a besoin d'être encouragé, il y a des moments où on a besoin d'entendre qu'on est capable de marcher avec Dieu, qu'on est capable de persévérer avec Dieu. Regardez ce que Jean leur dit. Il leur dit, « Vous êtes des enfants de Dieu. » Verset 12, « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » C'est la vérité la plus importante qu'on doit se rappeler à tous les jours de notre vie chrétienne. Ce matin, je me suis levé puis j'étais anxieux. Je ne sais pas pourquoi de ce temps-ci, je suis anxieux. Plus que d'habitude, puis mon sommeil, d'habitude, moi, je dors comme une bûche. Je me couche comme ça souvent, là. Je me relève 5 heures, 6 heures plus tard, boum, je n'ai pas bougé tout le long. Cadran sonne, bang, OK, on s'en va. Là, je ne sais pas, mon sommeil est troublé. Ce matin, je me suis réveillé, puis j'ai dit, OK, Seigneur, je ne peux pas quitter le lit avant d'avoir repassé l'Évangile dans mon cœur. J'ai besoin de me rappeler de mon identité. Et c'est ça que Jean est en train de faire ici. J'ai besoin de me rappeler ça. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Pas parce que vous êtes bon, pas parce que vous y arrivez, pas parce qu'à travers les années, vous êtes rendu. Toute ta vie chrétienne, tu as besoin de te rappeler et qu'on te rappelle que tu es un petit-enfant. Tu es un enfant de Dieu. Même le jour où on va venir te voir et on va dire, hey, tu es un modèle de foi. Oh, oui, toi, souvent, tu as besoin de te retirer et dire, non, non, je suis un enfant qui a été sauvé, racheté par mon Père, adopté dans la famille de Dieu à cause de son nom, pas à cause de mes œuvres. Et j'ai besoin de me reposer là. Vous voyez comment Jean prend soin? J'ai besoin de me rappeler que mes péchés sont pardonnés. Mes péchés ont été pardonnés, ils sont pardonnés, ils vont continuer à être pardonnés. Je suis accueilli à cause de son nom, pas à cause de mes œuvres à moi. Et ce matin, peut-être que c'est ça que tu as besoin d'entendre. Parce que tu vas dans la vie chrétienne, tu lis les Écritures, puis c'est lourd, c'est pesant. Des fois, c'est pesant parce que Dieu nous convainc de pécher, Dieu nous convainc qu'on a péché puis qu'on doit se repentir. Mais souvent, c'est pesant parce qu'on regarde à Dieu puis on veut regarder à Dieu sous l'angle de la justice personnelle. Je ne suis pas encore un bon chrétien. Donc, je ne me sens pas bien. Alors que tout ce que l'Esprit me demande de faire, c'est de me repentir puis de me reposer encore dans la grâce. Je ne serai jamais un bon chrétien. Peut-être que c'est ça que tu as besoin d'entendre ce matin. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, pas parce que tu es un bon chrétien. Et il va plus loin que ça encore. Il va les encourager encore davantage. Il leur dit, vous avez Dieu. Puis il répète aux enfants, au Père, il leur dit au verset 12, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Et ici, il n'est pas en train de faire référence à Dieu le Père. Je vous ramène 2 messages en arrière. Il faut vraiment lire le début de la lettre pour comprendre que le commencement, c'est le commencement du christianisme, la venue de Jésus-Christ. D'accord? Vous lirez les premiers versets. Dans ce cas-là, c'est ça. Il y a comme une espèce de jeu de mots. Si vous connaissez bien l'Évangile de Jean, là, au début de l'Évangile de Jean, le commencement, c'est avant la création. Dans l'épître de Jean, le commencement, c'est le commencement de la foi. Puis je pense que Jean est en train de jouer avec nous ici pour nous dire Jésus-Christ, c'est celui qui était au commencement, puis c'est le commencement de la foi aussi. Mais il dit, vous l'avez connu, celui qui est dès le commencement. Tout de suite après, il va dire aux petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Et donc, ce que Jean veut nous rappeler, c'est que profondément, lorsqu'on a compris l'Évangile, lorsqu'on a connu Dieu le Père, qui a envoyé son Fils, Dieu le Fils, et qui nous a donné le Saint-Esprit, on a connu Dieu. On a connu le Père. On a connu celui qui est à l'origine de la foi chrétienne, du christianisme. On l'a connu. Il est là, il est dans mon cœur, par son Esprit. On va revenir sur ça un petit peu plus loin. Par son Esprit qui habite en moi, je l'ai connu. Il y a des moments où on doute de ça. Parce qu'on regarde notre vie chrétienne, puis c'est correct, on l'a dit, hein, 1 Jean, c'est des tests aussi. C'est des tests pour la foi, puis ça te brasse, puis là tu dis, « Mes amis, est-ce que je suis chrétien? » C'est drôle, Jean, c'est un bon pédagogue, il prend soin de nous en disant, « Un chrétien, ça marche comme ça, mon chum. Ah, mais est-ce que tu as cru en Jésus? T'es chrétien. Viens te reposer dans la grâce. Un chrétien, ça marche comme ça. Donc, t'es pécheur, il faut que tu te repentes, il faut que tu viennes marcher dans la lumière. Tu ne peux pas rester là dans les ténèbres, t'es chrétien. Un chrétien, ça marche dans la lumière, avec Dieu, comme Dieu est dans la lumière. Mais en même temps, des fois, nos doutes vont tellement loin qu'on va en venir à dire, oui, mais peut-être que dans le fond, peut-être que ce n'est pas ça la vérité. Peut-être que Jésus-Christ ne m'a pas apporté la vérité. Peut-être que Jésus-Christ n'a pas la vérité pour nous. Jean dit, vous avez connu le Père. Vous savez que vous avez connu Dieu. Vous n'avez pas appris seulement des choses sur Dieu. Peut-être que certains d'entre vous, c'est là que vous êtes, vous dites, j'explore le christianisme, j'apprends des choses, j'essaie d'évaluer. Le jour où tu vas être chrétien, tu vas savoir que tu es chrétien. Ah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des doutes. Mais tu vas savoir que tu as placé ta foi dans le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés seulement en lui. Tu vas savoir que Christ est vraiment celui qui a fait connaître le Père. Et tu vas savoir cela parce que l'Esprit vient habiter en toi. Et il y a cette certitude profonde qui nous amène, comme dit l'apôtre Paul, à prier en disant « Père, Père, je sais que c'est mon Père. » Pas parce que je l'ai conçu comme j'aurais voulu le concevoir, parce que je l'ai connu à travers ce qui a été révélé à travers les Écritures, et je l'ai connu personnellement. Vous avez connu Dieu, vous avez connu le Père, vous avez connu le Fils. Puis enfin, je disais tantôt, il y a des saisons dans la vie. Et ce que Jean fait, c'est qu'il dit aux jeunes gens, je trouve ça vraiment génial ce qu'il fait ici, puis s'il y a une époque pour laquelle c'est approprié, c'est bien la nôtre. Regardez au verset 14, « Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts. » Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Les jeunes dans la foi aujourd'hui ont énormément de difficultés à croire ça. Je sais, j'ai passé par là. Je sais parce que je suis constamment en train de conseiller des jeunes. C'est difficile d'accepter ces paroles-là. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le malin. Yannick, si tu savais, mon vieux, ma vie, c'est tout sauf une victoire contre le malin. C'est pas vrai, ça. Je suis pas fort, je suis minable. J'ai de la difficulté, je lutte avec des péchés, je retombe constamment. J'arrive pas à avancer, je manque de guts, je manque de courage. La sainteté n'est pas là dans ma vie. Je suis pas fort, j'ai pas vaincu le malin. En même temps, c'est pas de ça dont Jean est en train de parler. Il est en train de dire, vous avez connu Dieu et vous avez embrassé la foi. Vous avez compris que ce monde qui est merveilleux est régi par le prince de ce monde, par les principes du prince de ce monde. Vous avez discerné ça. Et vous avez décidé de vous en remettre à la foi, dans la foi, en Jésus-Christ pour votre salut. Vous avez arrêté d'essayer de dire, je vais y arriver par moi-même. Vous êtes venu reposer votre cœur en Jésus-Christ. Vous avez acquis un discernement du bien et du mal. Ce n'est pas facile, la vie chrétienne. Mais progressivement, la parole de Dieu demeure en vous. Cette parole-là, dans 1 Jean, c'est Jésus-Christ. Si vous retournez au tout début, c'est la parole de vie. C'est Jésus-Christ qui est venu marcher parmi les hommes et qui, par son onction, par son esprit, maintenant habite en vous. Et donc, si dans ta vie, tu es entré dans la vie chrétienne, parce que tu as discerné par une révélation de Dieu, tu as compris que le monde est régi par le malin. Tu as discerné cela, tu as saisi cela et tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Déjà, tu es fort par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et plus tard, il va dire que la parole, que sa parole demeure en vous. Et donc, on est appelé à grandir dans ça. Mais déjà, tu es fort. Déjà, tu as choisi le bon camp. Déjà, tu as choisi le camp de la foi. Déjà, tu es un enfant de Dieu. Déjà, son esprit habite en toi. Déjà, tu connais la parole de Dieu qui est là pour t'instruire et t'aider à marcher dans la foi. Reste pas dans un état d'abattement parce que tu n'arriveras pas à rentrer au ciel avec tes bonnes œuvres. Reste pas dans un état d'abattement parce que tu dis, « Oui, mais si tu savais, je pêche. » Ben, si tu me dis que tu pêches pas, t'es juste pas chrétien, c'est ce que Jean m'a dit. Fait que tu me dises que tu pêches, c'est pas vraiment ça le problème. Qu'est-ce que tu fais avec? OK, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais Yannick, je pêche encore. Oui, je sais, j'ai connu ça, arriver à l'endroit où tu dis, « Seigneur, je te demanderai pardon, mais ça servirait à quoi? » Ça servirait à quoi de te demander encore pardon? Je vais encore pécher. Ça fait trop de fois, Seigneur, que je suis con. Dieu t'a donné son esprit et t'a embrassé la foi. Tu ne marches pas comme les gens du monde qui ne peuvent pas discerner entre le bien et le mal. Tu as appris à discerner le bien. Ton cœur te ramène constamment là. À dire, Seigneur, c'est ça dans le fond que je veux. C'est ça ma vie, c'est marcher avec toi. Tu es fort de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Apprends à demeurer puis à grandir dans cette vie-là, c'est vrai. Alors voyez-vous l'importance pour Jean de venir affirmer, de venir encourager. Et on a besoin comme Église d'apprendre à faire ça. D'aller vers les frères et sœurs autour de nous lorsque j'ai des inquiétudes parce que je vois des choses qui ne vont pas dans leur vie. D'être capable, comme l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, d'aller vers les gens puis moi avoir la foi de ce que Dieu va faire en eux parce que je sais qu'ils appartiennent à Dieu. Et ils ont besoin avant d'entendre mes réprimandes, mes inquiétudes, mon cœur qui panique, qui n'a pas de foi. Ils ont besoin d'entendre ma foi. Ils ont besoin d'entendre. Je sais que tu connais Dieu, que Christ habite en toi, qu'il va compléter l'œuvre qui a commencé en toi. Et on a besoin de se le faire redire constamment. Maintenant, une fois que Jean a rassuré, il veut mettre en garde, parce que comme je l'ai dit, il y a des gens qui gravitent autour de l'Église puis qui essaient de venir arracher des gens à la foi littéralement. Et donc, on va commencer par cette mise en garde-là qui est davantage morale. Il dit, n'aimez pas le monde n'importe comment. Aime pas le monde n'importe comment. En fait, ce n'est pas tout à fait ça qu'il dit. Verset 15, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. De quoi il parle? Aimez pas le monde. Il y a du monde déjà qui sont en train de se dire, ça tombe super bien. Moi, si tu savais comment j'aime pas le monde. Je suis tellement bien tout seul. Moi, je suis un introverti. Fait que tu sais, le monde, là, je l'aime pas. Je suis chrétien. Non, c'est pas vraiment ça l'idée. C'est drôle parce que Jésus lui-même, dans le verset le plus connu de la Bible, dit quoi? Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Le monde, c'est le même mot grec qu'on a là, « cosmos », ici et là. De quoi il parle? De quoi il parle? C'est pour ça que j'ai dit, « N'aimez pas le monde, n'importe comment. » Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde physique, il a créé les êtres humains, il a créé chaque âme qui existe. Ce monde-là est extraordinaire, il est merveilleux. David va aller jusqu'à dire que nous, comme êtres humains, on est des créatures merveilleuses. On a été créés à l'image de Dieu. Et donc, le monde est bon. Mais les Saintes Écritures nous apprennent que ce monde-là a été corrompu. Avec le péché qui est entré dans le monde, un nouveau prince règne sur le monde. La Bible l'appelle le malin, le diable. Un être spirituel qui règne dans une sphère spirituelle, mais qui se traduit dans la réalité de nos vies, qui est venu entacher, affecter, briser fondamentalement quelque chose dans le cœur de chacun des hommes, mais aussi dans la nature. Cette semaine, ça nous a été rappelé cruellement à travers ce drame-là qui s'est passé en Floride, où un alligator est venu arracher un enfant à ses parents. À Disneyland, tu sais, t'es au royaume des enfants. Ça devrait être l'endroit le plus sécuritaire au monde. Et d'une manière cruelle, il nous aurait été rappelé à nous, chrétiens. Parce que pas chrétien, t'as pas d'explication pour cette affaire-là. Mais il nous a été rappelé à nous, comme chrétiens, qu'on vit dans un monde brisé, où il y a des proies, puis il y a des prédateurs. Et au début, nous disent les Écritures, les choses ne devaient pas être ainsi. Ce désordre-là dans la nature qui se manifeste de plein de manières est encore, prend encore part au jugement que Dieu a prononcé sur sa création à cause du péché de l'homme. Et donc, Dieu aime le monde, mais Dieu n'aime pas le principe et les principes du monde. Il n'aime pas le péché qui règne dans le monde. Lorsque Dieu regarde le monde, il voit des âmes dont il a compassion. Les Écritures nous disent que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il voit des âmes qui sont rebelles. Des âmes qui disent, « Ah, moi, tu sais, la foi, la Bible, la révélation, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je vais tout trouver ça à l'intérieur de moi. » Tu as peut-être parlé, c'est peut-être bien, peut-être que je t'écouterai, j'aurai peut-être des conseils à recevoir de toi, mais de là à dire que toi, tu vas me révéler qui t'es, puis qui je suis, puis je dois aller écouter les Écritures, pas vraiment, tu sais, tu m'as créé intelligent après tout, je peux trouver ça à l'intérieur de moi. Puis Dieu dit ça, c'est la rébellion du cœur humain, qui rejette son Créateur, qui refuse de reconnaître qu'il a été créé à l'image de Dieu, et que l'homme peut se comprendre premièrement lorsqu'il connaît Dieu, et ensuite il apprend à se regarder lui-même. Et donc, Dieu est en opposition avec ce principe qui règne dans le monde, qui est là partout, qui se manifeste autour de nous. Et pourtant, Dieu aime le monde, c'est vrai. Et donc, ce que Jean est en train de nous dire, vous qui avez connu Jésus-Christ, n'aimez pas les principes du monde. N'aimez pas les principes du monde. Puis, il est assez explicite. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ce que Jean est en train de dire, c'est que si tu as connu Jésus-Christ, Dieu t'a donné une connaissance pour avoir un discernement. Tu peux vivre dans le monde sans aimer le péché qui est dans le monde. Par définition, ce que le péché fait, c'est qu'il prend toutes les belles choses que Dieu a créées, puis il en fait des idoles. Puis une fois qu'il en a fait des idoles, une fois que ces choses-là prennent la place de Dieu dans nos cœurs, dans nos désirs, nos aspirations, après ça, on va pervertir toutes ces affaires-là. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'il y ait un amour entre un homme et une femme qui puisse se marier. C'est quelque chose de fondamentalement bon. Mais si ça, ça prend la place de Dieu dans mon cœur, à ce moment-là, si ce désir-là, cette aspiration-là prend la place de Dieu dans mon cœur, je vais pervertir ça. Puis il va y avoir toutes sortes d'expressions de cette perversion-là. Dieu a donné la sexualité, la même chose, comme quelque chose de bon, de génial. Oui, pour qu'on puisse se multiplier. Oui, pour qu'on puisse jouir de la sexualité au sein du mariage. Si ça, ça prend la place de Dieu dans mon cœur, je vais déformer ça. Dieu nous a créés beaux. Dieu a créé la nature belle, puis on prend la beauté qui est quelque chose de fascinant, de merveilleux. Tu regardes la beauté dans la nature, dans l'humanité, partout autour de toi. Les belles choses que les êtres humains peuvent faire, la musique, les arts, tout ça. Puis tu peux littéralement, à partir de ça, dire « Wow, Dieu, t'es extraordinaire ». Mais tu peux aussi prendre les arts, puis t'en servir pour exprimer toutes ces passions-là immodérées, ces idoles-là qui viennent pervertir. Et si mon cœur aime cette expression-là, cette perversion-là, qui régit littéralement le monde autour de nous, si mes yeux en viennent à définir ma valeur de la même manière que mon voisin qui ne connaît peut-être pas Jésus-Christ va définir la valeur avec ses yeux. Hier, je m'en allais sur la route, puis j'ai vu une BM, je ne connais tellement pas les autos, mais quand elles sont belles, par exemple, je les apprécie. Super belle BM Sport, complètement malade, tu sais. J'ai trouvé ça génial. Je l'ai regardé et j'ai dit, wow. Pour moi, c'est l'expression du génie que Dieu nous a donné. Maintenant, si ça me l'apprend, ou s'il faut que je la désire, ou s'il faut que je sois jaloux pour définir ma valeur, je suis en train d'aimer le monde. L'apprécier, puis voir le génie humain, puis si le Seigneur me permet de participer à ça, hey, si je suis généreux, pas de problème. Mais définir ma valeur dans ça, convoiter ces choses-là, préférer ces choses-là à Dieu, les aimer plus que Dieu, être malheureux quand j'ai pas mon anane, mon idole, ce que je désire, la convoitise des yeux. Au lieu de trouver mon repos en Jésus-Christ, ma joie en Jésus-Christ, c'est de ça dont il est en train de nous avertir. C'est de ça dont il est en train de nous avertir. Les désirs de la chair, les désirs des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Intéressant, ça parle des biens matériels. Quand je l'ai lu sur le coup, je me suis dit, l'orgueil de la vie, ah oui, c'est être fier, je veux être meilleur que les autres. Mais le mot « vie » qui est là, « bios », généralement dans le Nouveau Testament, parle des biens matériels. C'est vraiment cette idée de me valoriser à partir de ce que je possède. Si ça ne parle pas de notre société, toute notre économie vit grâce à ça. Notre économie est bâtie sur ce principe-là. Les êtres humains ne désirent plus ce qu'ils ne devraient pas désirer parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se le payer. L'économie vient de s'effondrer. C'est vrai! C'est vrai! Tout le monde a juste des désirs raisonnables. Demain matin, notre économie s'effondre! Dieu t'a donné, par son esprit, la connaissance du monde pour reconnaître ce qui est bon dans le monde, pour que tu puisses l'aimer et que tu puisses renoncer, rejeter à aimer le monde comme le monde va l'aimer. Que tu puisses renoncer à ça. Et peut-être que c'est ça que Dieu veut appliquer dans ton cœur ce matin. Peut-être que Dieu veut que tu renonces à aimer le monde. Parce que lorsque ça, c'est là dans ton cœur, Dieu est tassé. Celui qui aime le monde ne connaît pas l'amour du Père. Dieu est mis sur la touche, puis il y a une idole qui est là à la place. Et peut-être que Dieu veut que tu viennes déposer cette idole-là à ses pieds, que tu viennes renoncer à ce principe-là. Puis enfin, la dernière mise en garde, super importante. La dernière mise en garde que Jean va adresser, c'est une mise en garde doctrinale, théologique. Déjà à l'époque, dans l'Église, il y avait des gens qui quittaient l'Église. Qui quittaient l'Église avec une nouvelle révélation sur la personne de Christ. Puis dans les premiers siècles, ça a été super présent, que ce soit Marcion ou d'autres qui ont voulu redéfinir qui est la personne de Jésus. Et Jean va jusqu'à les appeler des antéchrists. Dans les Écritures, on voit cette idée qu'un jour viendra où un régime, une personne, un être va être l'antéchrist, va l'incarner. On le trouve dans l'Apocalypse. On trouve des faux Christ dans les évangiles. On trouve ces idées-là. Mais Jean dit, toute personne qui veut affirmer, par exemple, que Jésus n'est pas venu en chair vivre, ou que Jésus n'est pas le Messie et pas le Christ, et on va les voir au fur et à mesure dans la lettre, on va additionner les fausses doctrines concernant Jésus-Christ. Tous ces gens-là sont des antéchrists, des antichrists. Parce qu'ils s'opposent. Et il y avait des gens donc qui tournaient autour et qui disaient, oui, je sais ce qu'on vous enseignait sur Jésus, ce n'est pas vraiment lui, le Christ, parce qu'il n'est peut-être pas vraiment venu en chair, tu sais, la matière n'est pas bonne, est-ce que vraiment il se serait incarné? On trouve une question semblable avec l'islam qui élève énormément Jésus, mais qui, par exemple, juge impossible que Jésus soit mort sur la croix, parce que Dieu ne ferait pas ça à son fils. Donc, il est indigne de ça. Ils ont encore un Jésus. Si vous demandez à un musulman, Jésus, est-ce qu'il est important? Il est super important. Dans un certain sens, il est plus important que Mahomet pour l'islam. Mais c'est un autre Jésus que celui-ci. Parce qu'ils ont eu une autre révélation qui nous a fait connaître un autre Jésus différent de celui-là. Et aujourd'hui, eux vont dire que ça, ce sont des mensonges. Jean est en train de dire, vous avez connu Jésus-Christ. Et vous savez que vous l'avez connu parce que vous avez son onction qui demeure en vous. Jésus avait donné cette prophétie, et on le trouve dans Jérémie aussi, dans l'Ancien Testament. Il avait été annoncé qu'un jour viendrait où Dieu nous donnerait son esprit qui viendrait habiter en nous. Et je pense que c'est de ça dont il est en train de parler ici, lorsqu'il parle de son onction qui habite en nous et qui nous dit qu'on a connu Dieu. C'est pour ça qu'au début du message, il dit, vous savez que vous avez connu Jésus-Christ. Vous savez que vous avez connu le Père. Les gens vont venir autour de vous, cogner à vos portes, ou vous semer des idées pour vous dire, « Non, attends un petit peu. C'est bien tout ce que tu as reçu, mais il manque quelque chose. Laisse-moi ajouter quelque chose à ce qui manque. » La réponse de Jean ici, c'est, « Demeure dans ce que tu as reçu, parce que tu l'as connu. » Jérémie avait prophétisé le jour où on n'aurait pas besoin d'enseignants. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, un jour, Dieu va donner son esprit, il va venir faire sa demeure en vous. Et vous allez pouvoir vous enseigner les uns les autres. Tout le monde va pouvoir partager la parole. Puis c'est Jean ici qui est en train d'enseigner, donc il y a encore des enseignants. Mais il est en train de parler de cet enseignant qui est en nous. Lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, on a reçu cette onction, son esprit qui habite en nous et qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Jean veut prendre soin de nous. Parce que lorsqu'on découvre l'Évangile, on découvre une histoire qui est absolument merveilleuse, qui est extraordinaire. On trouve un repos en Jésus-Christ, on arrête de se battre pour être sur la coche puis devenir un bon religieux, puis on réalise qu'il n'y a pas de bon religieux, puis on apprend à rentrer dans la foi, puis on accepte le pardon en Jésus-Christ. Puis Dieu nous donne un discernement pour apprendre à voir le monde, une connaissance du monde qui me permet de voir ce qui est bon et comment l'homme peut le pervertir. Pour pouvoir renoncer à ça, à ces désirs-là charnels, ces convoitises des yeux. Ainsi, je vais vivre dans le monde, mais pas selon les principes du monde. Jean me dit, tu as connu Jésus-Christ, tu le sais, tu as son esprit. Il s'est incarné. Il est venu vivre parmi les hommes. Certains vont venir vers toi et vont dire, non, tu as besoin d'une autre révélation. Laisse-moi te parler d'une nouvelle révélation. Ça, c'est passé, c'est ancien. Certains d'entre vous, votre combat, c'est dans le domaine moral. D'autres, vous êtes des curieux, vous aimez lire, vous fouillez, vous cherchez. C'est génial. Soyez connaissants de toutes les pensées qu'il y a dans le monde. Mais ne doutez pas. Ne doutez pas de Jésus-Christ qui est venu, qui s'est incarné, qui a marché parmi les hommes, qui est mort sur la croix pour nos péchés comme aucun prophète, aucun docteur, aucun messie ne l'a fait, qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et Jean nous dit enfin en terminant, au verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Si tu as connu Jésus-Christ, tu as connu le Père, tu as connu le Fils, tu as connu le monde, et tu as connu la vie éternelle. L'exhortation de Jean ce matin pour toi, c'est « demeure dans ce que tu as reçu. Reste là et repose-toi. Entre dans le repos qu'il y a dans la foi en Jésus-Christ. Renonce à ces luttes-là, à les jouer avec les passions du monde ou à aller chercher une nouvelle révélation. Repose-toi simplement en Jésus-Christ. » On va prier. Père éternel, on vient devant toi ce matin pour t'adorer. On vient devant toi ce matin pour te célébrer, pour chanter tes louanges, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier de t'être fait connaître à nous par ton esprit. Tu nous as fait connaître Jésus-Christ. En lui, nous avons trouvé le pardon de nos péchés, Seigneur. En lui, nous avons trouvé le repos, la paix. En lui, nous avons la victoire sur le malin. En lui, nous avons connu le monde avec un discernement nouveau. Garde-nous, Seigneur, simplement dans la foi, simplement dans ce repos, Seigneur. Et si ce matin, parmi nous, quelqu'un ne connaît pas encore Jésus-Christ, viens le rencontrer ce matin, Seigneur. Viens lui faire connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.